Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. Les discussions d'aujourd'hui pour définir le travail indépendant de demain. Des conseils à mettre en place au quotidien. Des sujets enrichissants pour aller plus loin.
Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce podcast organisé en partenariat avec le Lab, la fabrique du consultant indépendant. Je suis Geoffroy Boulard, directeur du Lab, et très heureux d'accueillir aujourd'hui Arnaud Boschurberg. Arnaud, vous êtes dirigeant d'entreprise et professeur des universités associées à l'université Gustave Eiffel. Vous enseignez la psychosociologie de la communication et le développement des compétences relationnelles, et cela depuis plus de 25 ans. Conférencier, consultant, formateur en psychologie de la performance, mais vous êtes aussi coach pour les dirigeants d'entreprise et pour des personnalités politiques. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont « Le mental clé de la performance »,« Rendre possible l'impossible » avec votre ami Karl Olive, le maire de Poissy, devenu député, je crois, et préfacé par le président de la République. Vous êtes aussi l'auteur de « S'affirmer en toute sérénité ». Vous êtes enfin l'auteur de « Lisez ce livre et boostez votre confiance en 30 minutes », tout un programme. Vous êtes le fondateur de ce qu'on appelle la communication solutionnelle. C'est même vous qui avez protégé cette appellation. Vous en avez écrit un livre. Puis, vous avez créé une formation qui se déploie actuellement en France et à l'étranger et qui connaît un énorme succès, notamment auprès des grandes entreprises. Bonjour Arnaud Boschurberg.
Bonjour Geoffroy Boulard.
Vous allez bien ce matin ?
Très bien, merci beaucoup de me recevoir.
J'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à concevoir la communication solutionnelle ?
Écoutez, on est dans une société où on a tendance à communiquer plus sur le problème que sur la solution. On se retrouve bien évidemment dans une situation où les effets de cette communication orientée sur le problème sont néfastes, puisque ça va générer de la culpabilité, ça va générer beaucoup finalement de distorsions au niveau personnel, des humiliations sur fond d'injustice. Et donc, notre éducation, en fait, elle est principalement, qu'elle soit scolaire, parentale ou religieuse, principalement orientée sur la faute. On voit ce qui va pas. À l'école, on démarre sur 20 et on enlève des fautes quand on fait des erreurs. Et donc, la question, c'était, est-ce qu'il faut pas penser autrement dans une société où, justement, on communique sur le problème et pas assez sur la solution? Est-ce qu'il faut pas changer le paradigme et faire en sorte qu'on communique enfin sur la solution plutôt que sur le problème? Donc, c'est effectivement ce qui a généré un livre, tout d'abord. Mais si un livre permet de s'informer, la formation permet de se transformer. C'est pour ça qu'on a développé une formation. Cette formation, elle se déploie maintenant dans toute la France, y compris maintenant aux États-Unis. On a un réseau de formateurs. Ce qui peut intéresser aussi aujourd'hui vos auditeurs, c'est que on va le déployer encore de plus en plus. On travaille avec des grosses maisons comme Lidl, Amazon. On vient de faire le siège ici de Sport 2000. On travaille avec les CCI, on travaille avec des groupes pharmaceutiques. Enfin, je veux dire, tout le monde est intéressé par la communication sociale.
Arnaud Boschurberg, comment vous est venue cette idée ?
Alors, l'idée...
C'est quoi l'idée de...
L'idée,
on doit communiquer sur la solution. Vous en avez fait une activité professionnelle, vous commercialisez des formations, etc. Mais d'où ça vient, cette idée ?
On part d'un besoin, d'abord. Le besoin, c'est...
Ça vous a touché, vous, personnellement, Arnaud ? Vous
avez vous savez, dans la vie personnelle, déjà, on se retrouve toujours dans des relations de couple, relations familiales, où on se retrouve souvent à subir dans nos relations, à communiquer sur le problème plutôt que solution. Quand vous avez enfin qui dit « Oh, tu m'as pas embrassé ce soir », c'est plus sympa de dire « J'aime bien quand tu m'embrasses le soir ». Oui, la façon de communiquer est déjà différente. Quand on dit tu m'as pas embrassé », c'est qu'elle communique déjà sur le problème.
Donc, c'est parti de là.
Pas que, mais je veux dire, c'est surtout parti d'un besoin des entreprises. On se rend compte aujourd'hui, on parle de grandes démissions, on parle de turnover, on parle de manque d'implication des collaborateurs, et ça de plus en plus, et surtout après la crise Covid, donc c'est de plus en plus criant, et on se rend compte que finalement, c'est souvent lié d'ailleurs, tout ça, à un problème de communication du manager. Une communication défaillante va avoir un impact très négatif sur la productivité, sur la performance. Donc, il était important de revoir les choses, surtout sur le problème de la communication des managers. Et c'est ce qui a, c'est ce qui m'a incité, en fait, surtout à travailler d'abord sur un livre, parce qu'il y avait un besoin. Bon. Et ensuite une formation.
Vous parlez des besoins des entreprises. Vous êtes parti de là pour répondre à ce besoin avec ces formations, avec cette communication par la solution. Il y a une méthodologie, il y a une analyse. Mais quels sont les besoins des entreprises? Pourquoi elles vous demandent? Dans quelle situation elles se retrouvent pour réinventer leur manière de communiquer et surtout de permettre à leur manager de mieux communiquer et communiquer positivement, hein, finalement?
Écoutez, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenir les collaborateurs dans un contexte harmonieux. On parle aujourd'hui de management durable. C'est quoi le management durable? C'est un management qui va être respectueux, bienveillant, mais qui va faire en sorte d'impliquer et de motiver ses collaborateurs. C'est quoi un bon management, finalement? C'est un management où on va tirer les collaborateurs vers le haut, continuer à les motiver, mais surtout les impliquer. Alors les motiver, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être des motivations psychologiques, le fait de la reconnaissance tout simplement. Mais c'est aussi des motivations matérielles, le fait de fournir une prime en fin d'année ou parce que le travail était bien fait. Mais c'est beaucoup plus dur ensuite de l'impliquer. Impliquer, c'est donner du sens à ses collaborateurs. Donc quand on a, les objectifs clés d'un bon management, ben on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas énormément d'outils. La communication solutionnelle va répondre finalement à ces problématiques, à la fois de motivation du personnel, parce que évidemment on l'incite à être acteur de sa solution plutôt que spectateur de celle du manager. Jusqu'à maintenant, le manager, il avait tendance à s'imposer en imposant en fait ses directives. Et le collaborateur, lui, il reçoit cette directive sans s'impliquer dans la solution. Là, en fait, la méthode, c'est que le manager va communiquer sur ce qui ne lui convient pas, en exprimant ses émotions, mais en demandant au collaborateur de s'impliquer dans la solution. Et c'est ce qui change, en fait, la donne, puisque le collaborateur devient acteur de sa solution plutôt que spectateur. On travaille ici avec les ressorts de la psychosociologie. En fait, la théorie de l'engagement fait qu'on est meilleur quand on est impliqué dans l'engagement, dans la solution, soi-même, plutôt que quand on la subit. C'est tout, en fait, l'intérêt et l'avantage de cette méthode.
Que disent les personnes salariées, cadres, dirigeants que vous avez accompagnées après ces séances, après cette méthodologie, cette nouvelle manière de penser, parce que c'est pas rien ce que vous proposez quand même. C'est un profond bouleversement pour la personne dans sa manière d'entrer en relation avec l'autre. C'est pas rien.
Alors c'est évident que avant et après, on est transformé. On n'est pas pareil parce que évidemment, on va rentrer dans les coulisses de la communication. On va décrypter finalement les positions de vie. On va comprendre quels sont les états psychologiques. Là, on reprend vraiment les travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle. On va comprendre les transactions parallèles, les transactions croisées, les transactions cachées. On va identifier les jeux psychologiques. Et on s'en rend même pas compte, mais on joue. On passe notre temps à jouer. On prend des jeux de persécuteurs, des jeux de victimes, des jeux de sauveurs. Et on passe notre temps, finalement, à faire différents jeux. Alors, des jeux complexes, hein, et on s'en rend même pas compte. Si je dis, voilà, habituellement, je fais jamais de podcast, mais parce que c'est vous, je le fais. Vous voyez, ça, c'est un jeu de sauveur. On vous a rien demandé. Vous voyez. Mais je peux aussi être le pyromane pompier. C'est-à-dire que je mets le feu et après, je l'éteins. Vous voyez, ça, c'est un jeu. Je vais dire, tiens, je suis passé il y a pas longtemps, puis j'ai vu que on parlait de toi il y a pas longtemps. Bon, il disait pas du bien de toi, mais si tu veux, je peux lui parler, je le connais bien. Vous voyez, je mets le feu et après, je l'éteins. Mais ça, c'est des jeux psychologiques. Donc, le simple fait déjà de les identifier, ça permet déjà de comprendre dans l'entreprise qu'il faut arrêter de jouer. Donc on va déjouer les jeux, on va repérer les transactions. Donc on voit plus du tout les choses de la même manière. Que ce soit dans sa vie privée, que dans sa vie professionnelle. Il y a une grande perméabilité, évidemment, dans la communication entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc cette formation va effectivement transformer la manière de communiquer. Mais il faut que ça reste des outils. On peut pas communiquer tout le temps de façon assertive. Mais on peut utiliser ces outils dans des moments clés.
Vous avez un exemple là, récent de communication solutionnelle que vous avez observé dans l'actualité ou à travers des témoignages vos clients.
Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire rire. J'ai un pharmacien, donc, qui a quelques collaborateurs et qui avait dans son équipe un collaborateur qui sentait mauvais. Au départ, tout le monde rigole. Et puis après, on rigole plus trop. Et donc, les différents collaborateurs viennent voir le pharmacien titulaire en disant, écoute, il faut que tu fasses quelque chose, parce que nous, on passe toute la journée le samedi avec cette personne, et c'est insupportable. Et lui, en fait, il est dans une situation où c'est très compliqué pour lui de lui parler, parce qu'il a énormément de mal à recruter du personnel. Trouver des collaborateurs dans une pharmacie, c'est très compliqué. En plus, cette personne fait très bien le travail.
Compétent.
Et donc, il se retrouve très embêté, parce qu'il dit, si je lui dis, elle va penser que je lui en veux, et elle risque de partir. Vous voyez, c'est une problématique simple, mais très complexe. J'ai eu donc une formation dans un groupement de pharmaciens, Carpilab. On a suivi des pharmaciens, et ces pharmaciens ont suivi cette formation. Et je revois le titulaire m'expliquer, en fait, la problématique. Et une fois qu'il a suivi la formation, il dit, écoutez, je vais la convoquer lundi, la personne, pour faire le point avec elle, en utilisant les outils de la communication solutionnelle. Donc, elle le reçoit en disant, écoutez, voilà, de façon très factuelle, je constate que vous avez une odeur corporelle qui est forte. Vous voyez, c'est dur à dire, mais il le dit de façon assertive. Ça me contrarie énormément, car les collaborateurs se plaignent et les clients aussi de la pharmacie se plaignent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, elle devient, ici, actrice de la solution. C'est pas lui qui lui dit ce qu'il doit faire, ce qui pourrait être très humiliant. Et elle lui dit, écoutez, effectivement, je m'en rendais pas compte, je pense avoir un problème, mais je ne sais pas lequel. Et donc, ils trouvent ensemble une solution pour aller voir un médecin. Il y avait un problème hormonal, le problème a été réglé. Il m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. Mais oui, vous voyez, ça, c'est un cas intéressant, amusant au départ, mais qui peut poser des problèmes en entreprise. Voilà. J'ai pris le cas le plus complexe parce qu'il est difficile à dire à quelqu'un qu'il a une mauvaise haleine
ou personne,
qui touche la personne. Ouais. Et pourtant, on peut le faire. Donc, on peut tout dire finalement dans une communication assertive tant qu'on est respectueux, dans un respect mutuel, respectueux de la personne.
Vous travaillez avec des managers qui veulent communiquer différemment, qui veulent manager différemment. On retrouve d'ailleurs cette grande tendance sur la bienveillance, le management bienveillant. Qu'est-ce qu'ils en retirent, les managers, aujourd'hui? Quels sont les avantages qu'ils en retirent, qu'ils vous disent en retirer après l'expérimentation qui va être durable? Parce que ce que vous proposez, c'est vraiment un changement de méthode profond qui touche pas uniquement le management quand on est dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les managers?
Alors déjà, il y a un gros soulagement des managers, de se dire, c'est pas moi qui porte tous les problèmes, parce que souvent, on attend du manager qu'il vienne résoudre, en fait, l'ensemble des difficultés des collaborateurs. Et là, finalement, c'est un soulagement, parce qu'il dit, finalement, moi, je suis chef d'orchestre, j'ai des collaborateurs compétents, c'est chacun doit jouer sa partition, en m'apportant aussi, en apportant des solutions. Donc, il y a une augmentation de l'implication des collaborateurs, une augmentation de la créativité, parce que on est meilleur quand on est plusieurs à apporter des solutions et être créatif. Un soulagement pour le manager qui, du coup, se retrouve avec moins de responsabilités à gérer dans la résolution des solutions. Ça veut pas dire qu'il a moins de responsabilités sociales, mais dans la résolution des problèmes. Donc, c'est moins de stress aussi pour lui. Et ça augmente la motivation et ça va baisser, évidemment, l'envie de partir. Donc, moins de turnover, moins une augmentation de la productivité, moins d'abandon. Donc, c'est ça l'enjeu, finalement, majeur pour les avantages et l'intérêt pour l'entreprise. Mais ça se verra évidemment dans le long terme. On ne peut pas le voir sur un délai trop court. Il faut inscrire la communication sociale de façon durable. C'est pour ça que je reprends le cas de Sport 2000, où le directeur général a dit « je vais former l'ensemble des collaborateurs du siège pour faire en sorte que tout le monde soit bien formé à cette communication de façon
uniforme. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous décrivez, les témoignages que vous relatez, d'expériences que vous relatez, c'est que finalement, pour un consultant indépendant, dans son rapport à son client, la communication par la solution, c'est quand même un atout essentiel. On est dans la posture du consultant qui apporte une solution, qui apporte une valeur ajoutée à son client. Et est-ce que, comment vous voyez ce parallèle? Moi, en échangeant, en vous écoutant, Arnaud, je me dis, mais finalement, tous les consultants qui veulent fidéliser un client, qui veulent proposer à notre client, le fait d'avoir une posture de solution. Alors vous me direz, normalement, c'est l'essence même du consultant. Mais en quoi ça peut aider aussi un consultant indépendant, que ce soit en portage salarial, que ce soit auto-entrepreneur, qui lance son activité?
D'abord, ça va l'aider dans sa vie privée, c'est important. Et puis, dans sa vie professionnelle, il va apprendre finalement à exprimer une demande dans un respect mutuel. Parfois, on s'en rend pas compte, mais sur le ton dans lequel on va parler, on va être un petit peu agressif, ou on va être dans la fuite parce qu'on n'ose pas, ou on va être dans la manipulation, ce qu'il faudrait pas. Être assertif, en réalité, c'est pouvoir tout dire, mais dans un respect mutuel. Donc, ça va beaucoup l'aider, pouvoir répondre à une demande de façon assertive, pouvoir faire une critique de façon assertive sans démotiver. Il faut pouvoir tout dire. Je suis retrouvé avec des situations avec des hommes politiques où finalement ces personnes ont un tel pouvoir que personne n'ose leur dire ce qu'il y avait. Et vous, en tant que coach, vous êtes obligé de dire qu'il y a des choses à améliorer. Je sais pas, vous êtes aussi payé pour ça. Comment on le fait sans aussi perdre la relation aussi avec tout ça de façon assertive. Bon. Pouvoir aussi répondre à la critique sans se vexer et sans démotiver. Donc c'est tout ça l'enjeu en fait aussi de la communication situationnelle.
Vous dites c'est pas un risque en fait. C'est pas un risque à prendre. C'est une posture qui, si elle est bien menée, va convaincre votre interlocuteur de travailler avec vous, de continuer. C'est cette relation de confiance, finalement, quand on est consultant et qu'on travaille avec un client, qu'on est capable de lui formuler, finalement, des critiques, mais aussi de lui apporter. Alors, quand on est coach, c'est pas la solution. On n'apporte pas la solution. Parce que la solution, tous les coachs qui nous écoutent le savent bien. On amène l'individu à trouver la solution. Mais quand on est consultant, on est un peu plus dans cette... pas obligation, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais dans cette trajectoire d'être un peu plus précis sur des solutions, sur des recommandations extrêmement opérationnelles que le client doit prendre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça se transpose tout à fait aussi à la manière de communiquer pour les consultants vis-à-vis de leurs clients.
On utilise d'ailleurs les mêmes ressorts que le coaching, la méthodologie, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va apporter la solution, on laisse le collaborateur ou l'interlocuteur trouver en lui les ressources pour justement être acteur de sa solution. Donc le coach ne peut pas lui donner de solution, il va laisser l'interlocuteur trouver en lui les ressources. Et c'est ça, en fait, le ressort de la communication situationnelle. On utilise les mêmes méthodes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des formateurs certifiés en communication situationnelle sont aussi des coachs qui ont suivi...
avec un background dans
ce... L'écoute active, l'écoute coach, une écoute pour apprendre au lieu de répondre. Parce qu'on a tendance à écouter pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre et apprendre. Donc, c'est pour ça que les coachs sont plutôt... des bons formateurs.
Vous parlez dans vos livres d'intelligence relationnelle.
Oui, l'intelligence relationnelle, c'est une intelligence très forte aujourd'hui. On a toujours parlé finalement d'intelligence rationnelle en parlant du quotient intellectuel. Aujourd'hui, moi je serais plus sur l'adaptabilité, dans une période où justement on demande énormément aux gens de s'adapter. Mais ça veut dire aussi comprendre l'autre. Comprendre la relation, comprendre les transactions, savoir s'adapter en toute situation. Vous avez beaucoup de méthodes, de process comme, qui permettent de comprendre en fait les individus. Mais finalement, la communication solutionnelle, c'est une communication qui doit permettre à tous les individus et toutes les personnalités de communiquer entre eux. Donc, il faut effectivement une certaine intelligence relationnelle pour comprendre les ressorts. Et cette intelligence, elle est liée à la façon d'appréhender l'autre dans la relation. Donc oui, je suis très très favorable à communiquer justement sur cette intelligence-là.
Et ce que vous écrivez d'ailleurs dans un de vos livres, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Oui. C'est-à-dire que ce soit le directeur général, président, ou la personne qui est à l'accueil et qui est le premier visage de l'entreprise, ou au téléphone. C'est cette intelligence relationnelle, c'est accroître l'empathie, c'est ce que vous écrivez là dans ce livre. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Je dirais pas uniquement des managers, mais j'imagine que vous formez aussi des équipes qui sont très opérationnelles, au contact direct, des employés.
En fait, dès lors qu'on est dans une équipe, que ce soit en haut de staff ou à la base, on est dans l'humain. Et donc, on a besoin de communiquer. Il faut que l'ensemble des collaborateurs, là, on a formé Amazon, que finalement, les agents de terrain puissent communiquer aussi avec le siège. Et il y a des, parfois des difficultés. Parce que, vous voyez, il y a des process qualité qui sont mis en place. Et puis, sur le terrain, ça suit pas. Parce qu'on leur demande d'aller vite, mais en même temps, on leur demande de respecter des process de qualité, ce qui prend du temps. Et donc, il y a forcément là des nœuds. Et il faut qu'ils puissent les uns avec les autres communiquer ensemble. Donc ça concerne tout le monde. Dès lors qu'on est dans une équipe, quel que soit le niveau, il faut qu'on puisse bien communiquer. D'où l'intérêt, finalement, quand on est en entreprise qui veut développer la communication bienveillante, un management durable, c'est d'inscrire l'ensemble des collaborateurs dans une communication qui est inscrite sur la solution plutôt que sur le problème.
Vous avez créé un site internet qui développe ce concept de communication solutionnelle. Vous dites aujourd'hui que il y a un marché intéressant, notamment pour des formateurs, pour être certifiés, avec toute une méthode que vous avez développée. Et vous dites que c'est important de le faire aussi pour les consultants, pour des indépendants, pour des auto-entrepreneurs qui veulent réinventer aussi leur manière d'interagir avec leurs futurs clients, leurs prospects, et que c'est un avantage, que c'est un apport, et que ça peut être décisif dans la contractualisation. C'est ça qu'on retient de ce que vous dites aussi. Et ce que je retiens, cher Arnaud, c'est votre sourire. Parce que là, c'est un quart d'heure qu'on discute, mais c'est ce sourire, c'est cette bienveillance, cette mise en confiance. Et c'est ce que vous développez aussi dans la communication solutionnelle, c'est cette empathie physique, évidemment dans les mots, dans la manière de les utiliser. Et ça, c'est quelque chose que vous recommandez aujourd'hui de développer. Mais voilà, quand on n'a pas envie de sourire, comment on fait ?
Moi, je suis un passionné.
Pour développer une communication par des solutions.
Alors, on n'est pas, je veux dire...
Permettez-moi de...
Bien sûr, mais on n'est pas obligé de sourire pour communiquer sur la solution. Moi, je le fais parce que je suis un passionné.
Ça se voit, ça s'entend.
Ouais. Alors, je vais vous dire... La communication solutionnelle, c'est plus qu'une formation en réalité. Je pense que c'est une démarche éthique. L'inscrire finalement dans son ADN, pouvoir dans notre société communiquer sur la solution plutôt que sur le problème, ça aiderait grandement à améliorer notre société. Il y a certains élus d'ailleurs qui l'intègrent finalement comme une politique de bien-être, qui rentre aussi dans la politique RSE de l'entreprise, puisque on est sur la qualité de vie au travail, on est sur le bien-être. Oui, si on communique sur la solution, ça évitera évidemment des écueils, notamment liés à la culpabilité. Communiquer sur le problème, ça ne fait rien avancer, mais communiquer sur la solution permet effectivement d'avancer vers un monde meilleur.
Merci Arnaud Boucherberg.
Merci Geoffroy Boulin.
Merci pour ce que vous nous avez partagé pour ce nouveau podcast en partenariat avec le Lab.
Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. En partenariat avec le Lab et Trajectoire Missionéo, organisme de formation leader pour les indépendants.